Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Mousseau. Karine est une nutritionniste, diététiste, conférencière et professeure de yoga qui s'intéresse particulièrement à la santé hormonale, donc tout ce qui a trait à la ménopause, les SPM et la fertilité. Donc, ça allait de soi que j'avais vraiment envie de m'entretenir avec elle pour discuter de son approche professionnelle de la nutrition en lien avec la fertilité auprès des femmes. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Karine Mousseau. Karine, merci d'être là. Tout d'abord, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là avec moi pour discuter de ce sujet-là.
Merci, Jeanne, pour ton invitation. C'est vraiment un plaisir.
Cool. Écoute, je viens de t'introduire. Donc, j'ai dit que tu étais nutritionniste, diététiste, conférencière, professeure de yoga. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc, donc ce que je peux voir. Et j'aimerais qu'on fasse un petit retour aux sources avec toi pour apprendre un peu plus sur ton parcours professionnel et même personnel. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à exercer ces différents métiers-là?
Ça part de loin quand même. J'ai commencé en fait dans le milieu des arts. J'étais costumière au Cirque du Soleil. Ça, c'est il y a plus de 10 ans. Puis dans les arts, c'est ça, j'étais pas totalement à ma place. Je sentais que j'offrais pas assez au monde. Je tripais, tu sais, mais c'est ça, il me manquait quelque chose dans ma vie. Puis sur le côté, ben, j'étais passionnée par la nutrition. Je faisais plein de tests par rapport à plein de diète chez moi. Je lisais beaucoup sur les plantes. Puis, donc, c'est ça, j'ai réalisé un jour que je pouvais faire des études là-dedans. Et quelqu'un m'a fait réaliser, en fait, que j'étais au restaurant, il y avait un serveur, puis il était naturopathe. Et puis, j'ai dit, c'est quoi ça, naturopathe? Puis, c'est ça, il m'a dit qu'il étudiait les plantes, puis il aidait les gens à retrouver la santé par des manières naturelles. Puis, ça l'a fait un déclic en moi. Puis, j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai tout lâché, puis j'ai commencé à étudier la naturopathie et je suis devenue aussi prof de yoga la même année. Puis, j'avais jamais fait de yoga avant. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est ça. À ce moment-là, j'étais en burn-out, donc c'était clair qu'il fallait que je fasse un changement. Puis de là, après mes études en naturopathie, j'ai fait mon bac en nutrition à Ottawa. Et puis, j'ai continué après ça juste un an à la maîtrise à l'Université de Montréal, juste pour compléter en nutrition clinique. Puis, ben, je pense que j'étais rendue à 32 ans, là, dans ce temps-là. Donc, je me suis dit, OK, c'est le temps de travailler, là. Donc, c'est ça, j'ai ouvert mon cabinet à Bromont en pratique privée. Puis, depuis ce temps-là, je vois des clients en pratique privée.
OK. Et tu as gradué en quelle année? Donc, ça fait combien de temps que tu pratiques de façon professionnelle?
J'ai gradué en 2015, donc j'ai pris quand même une petite pause pour voyager après, puis c'est ça, j'ai commencé en 2017 en fait.
OK.
Donc ça fait 3 bonnes années là, que je fais ça.
Puis je ne savais pas que tu avais aussi des études en naturopathie. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir ajouter la nutrition à ta certification en naturopathe, comme naturopathe? C'est quoi la différence, en fait, juste pour qu'on puisse distinguer les deux pratiques?
En fait, c'est que dans ma famille, on est assez cartésien, je pourrais dire, puis... En fait, ma sœur est médecin, puis j'ai vraiment vu quand j'étais naturopathe que j'arriverais jamais à avoir une conversation avec un médecin en restant naturopathe. Il y a comme, le gap est trop grand. Fait que je me suis dit, OK, il faut que j'aille chercher un bac, il faut que j'aille chercher quelque chose qui est crédible à leurs yeux, et il faut que je puisse me faire référer aussi. Parce que c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, après la naturo, dis-moi, qui m'a vraiment passionnée, c'est ça, je me suis dit, je vais aller chercher quelque chose de plus technique, de plus pratique, peut-être pas plus pratique, là, mais plus avec plus de valeur aux yeux de la société, en fait. C'est ça qui m'a poussée à faire mon bac.
Pardon? Plus concret, peut-être, si je me trompe pas. Ben, en fait, la naturopathie, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est beaucoup selon les habitudes aussi de vie, l'hygiène de vie, Ça a trait avec ce qu'on va manger, mais tout comment on gère notre système au quotidien.
Oui.
Tandis que la nutrition, ben, c'est principalement au niveau de l'alimentation. C'est ça un peu, hein?
Oui, c'est sûr que la naturopathie, par définition, est plus holistique. J'ai vraiment, c'est là que j'ai commencé à découvrir le pouvoir, en fait, du système nerveux. Et vu que j'étais en épuisement professionnel pendant mes études, en plus, ben, j'ai vraiment plongé là-dedans avec les plantes, les adaptogènes, les huiles essentielles. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus vastes, en fait. Puis en nutrition, ben c'est ça, on est allé plus en détail avec l'anatomie, la physiologie, puis les labos de biochimie que je ne sais pas à quoi ça me sert aujourd'hui, mais il a fallu que je passe par là. Donc, oui, c'est sûr que la science de la nutrition au bac, c'est beaucoup plus centré sur la nutrition, oui. Mais on va toujours parler un petit peu d'activité physique, puis de mode de vie, d'habitude. Et personnellement, dans ma pratique, c'est ça que je trouve le fun, c'est que aujourd'hui, je peux vraiment allier les forces des deux. C'est pas juste qu'on mange qui fait un effet sur nous, sur notre santé. C'est vraiment aussi tout qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on pense, nos habitudes. Tout ça fait une énorme différence sur comment tu vas assimiler tes aliments, sur comment tu vas être. Puis c'est ça, pour moi, c'est indissociable, en fait.
Vraiment intéressant. Donc, je vois que tu as vraiment fait la transition là, suite à ton burn-out ou du moins pendant ton burn-out pour vraiment aller chercher du bien-être, que ce soit avec la formation professorale de yoga et tes formations en naturopathie puis en nutrition. Donc, tu avais vraiment un besoin vraiment intrinsèque ou deep, assez profond de te ressourcer, là. Donc, c'est vraiment intéressant que tu l'aies fait pour toi, puis ensuite, ben, que tu peux le transmettre aux autres grâce à ça, en fait, puis à arriver à aider des gens, là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Oui.
Puis selon, ben là, c'est sûr que avec la nutrition, la naturopathie, j'imagine que tu vois des patients, des patientes avec différents, on va dire, j'aime pas ça appeler ça problématique, mais j'ai comme juste ce mot-là qui me vient en tête, problématique, difficultés ou des raisons pour lesquelles ils consultent, notamment par rapport à la fertilité ou l'infertilité. Est-ce que ce sujet-là en particulier, la fertilité ou la santé hormonale, t'es venu d'un intérêt personnel ou plutôt parce que tu as eu beaucoup de clients ou clientes ou patientes qui avaient ce type de difficulté-là? Comment c'est venu en fait?
Le côté fertilité ou infertilité, je te dirais que c'est venu plus par un intérêt personnel parce que c'est rare, honnêtement, que les gens vont venir à moi pour un trouble de fertilité. Ils vont beaucoup plus aller chez le médecin, aller chercher des substituts, des hormones, en fait. J'en ai quelques-uns, c'est certain, mais c'est pas la grande majorité. Par contre, tout ce qui est trouble hormonal, donc, SPM, les kystes, l'endométriose, les syndromes des ovaires polykystiques, beaucoup de ménopause, préménopause, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup ma clientèle. Puis l'intérêt est venu d'eux, de ma clientèle, justement. Pas que j'ai jamais souffert de SPM, là, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est vraiment venu de la demande. J'ai vu à quel point il y avait un besoin pour ça. Depuis 3 ans, puis je me dis, mon Dieu, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Ça va pas, là, chez les femmes, là, souvent. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est mon œil, là, mon point de vue, parce que je vois des gens qui ont besoin d'aide. Mais c'est ça, c'est venu vraiment d'eux. Puis là, plus j'ai commencé à creuser là-dedans, plus je me suis intéressée à ça pour moi aussi. Puis surtout dans la dernière année, je te dirais, j'ai beaucoup fait de. J'ai changé beaucoup mon alimentation par rapport à la fertilité puis par rapport aux hormones, la nutrition hormonale, chose que je faisais pas nécessairement avant.
Puis cette remarque-là, ben, le fait que parce que Je suis vraiment d'accord avec toi que j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes. Bien, tout ce qui a trait à la santé hormonale, la fertilité, les problèmes de SPM, c'est tout ce que tu parlais, endométriose, ovaire polykystique. De plus en plus, j'entends ces mots-là qui ressortent, que quand j'en parle, les fois avec ma mère, ma mère a dit, mais il me semble qu'on n'entendait pas ça tant que ça quand que j'étais à ton âge, ou tu sais, c'était moins présent des problèmes de fertilité ou des problèmes liés au cycle menstruel. Peut-être qu'ils n'en parlaient pas ou c'était encore plus tabou, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Est-ce que tu aurais une raison, tu sais, y a-t-il une raison pourquoi est-ce que c'est la prise d'anovulant? Est-ce que tu sais, ce qu'on mange justement, est-ce que c'est ce qu'on va manger au niveau de notre alimentation qui va jouer un rôle? Tu sais, j'aimerais juste avoir peut-être ton avis par rapport à ça.
Ouais, c'est une bonne question. J'y ai jamais pensé, mais je pense qu'il y a plusieurs causes. Il n'y en a pas juste une. Il y a tellement d'idées qui me viennent. Par quel commencer? Je ne sais pas s'il y aurait un ordre là-dedans, mais premièrement, la montée des intolérances au gluten. Ça joue énormément sur ça. Puis, il y a beaucoup plus de monde qui le sont sans le savoir, parce que ce n'est pas nécessairement des symptômes gastro-intestinaux qu'on peut ressentir. Ça peut être des symptômes beaucoup plus systémiques. Par exemple, justement, la difficulté à être fertile, tu sais, à l'infertilité, en fait. Puis, ça a un lien aussi avec les ovaires polykystiques, l'endométriose. Donc, ça serait mon point numéro un. Puis, c'est un petit peu relié aussi avec les désordres du microbiote. On n'a plus autant, en majorité, une alimentation qui est variée, qui va être végétale aussi, ou tu sais, sans être végétarien nécessairement, là, ou végane. Mais en général, il y a de plus en plus de produits transformés, puis c'est pratique. Tu sais, les gens avec les familles, tout ça en consomme quand même beaucoup. Puis ça, c'est pas quelque chose qui va vraiment nourrir notre microbiote de façon positive. Puis ça peut aussi avoir un lien avec tous ces symptômes-là de hormonaux. Et je dirais aussi le stress. Le stress de la vie quotidienne, nos horaires qui sont de plus en plus chargés. Je suis certaine qu'une femme en 2020, comparée à une femme dans les années 70, son niveau de stress n'est pas pareil, son niveau de toxicité intérieure, je pourrais dire, c'est quand même un gros mot, là, mais on est quand même bombardé encore plus qu'il y a 50 ans par des plastiques, des perturbateurs endocriniens. Le stress justement qui perturbe notre microbiote puis qui enlève de l'énergie au corps pour produire ces hormones sexuelles, tu sais, puis pour se régénérer à ce niveau-là. Donc, quand le niveau de stress est trop élevé chez une femme, surtout, on est beaucoup plus sensible que les hommes au stress, tout son métabolisme hormonal peut être complètement perturbé. Puis, on a un seuil de tolérance aujourd'hui aussi beaucoup plus élevé, où, tu sais, comme c'est normal d'être stressé, c'est normal d'en faire beaucoup, beaucoup, puis d'être une superwoman. Donc, on a normalisé le fait un peu d'être stressé au quotidien, puis de se lever le matin, puis de recommencer, puis let's go, puis c'est quasiment bien vu, en fait, là. Puis ça nous mène à notre perte, je pense, en tant que tu sais, en tant que, t'sais, avec notre santé hormonale optimale, c'est vraiment les ennemis opposés, là. Ouais.
Je suis
Donc, c'est
tellement
les
d'accord. Ouais.
ouais.
C'est tellement vrai que c'est ça, c'est que la société nous amène à un rythme qui est très, très rapide. De par juste les réseaux sociaux, Internet, les gens veulent s'épanouir puis essaient plein de choses au niveau professionnel, personnel. C'est comme le plus que tu en fais, on dirait le plus que tu es dans la vague, là, t'es dans le moment, mais en même temps, pas tant que ça parce que tu t'épuises puis tu n'es plus dans le moment. Donc, puis, tu sais, je le dis, puis c'est un travail que je suis en train de faire. Puis que je fais, que j'essaie de cultiver au quotidien, de ralentir, parce que j'ai un rythme de vie En tout cas, avec la situation de la COVID, ça a changé beaucoup de choses, ça remet en perspective, mais je me ramène à pré-COVID, là, quand j'enseignais à plein d'endroits en même temps, que je faisais plein de choses en même temps, que je m'entraînais 2 fois par jour, puis que j'arrêtais pas chaque jour, c'était la même affaire. Puis plus que j'en faisais, bien, c'était comme si j'accomplissais, je me poussais. C'est quoi ma limite, tu sais? Puis je repoussais cette limite-là en me disant, genre, ah, je peux en prendre plus, tu sais? Mais c'est un peu contre nature, c'est sûr qu'à long terme, c'est pas viable, c'est pas optimal parce que le corps a besoin de repos. C'est pour justement être vraiment se propulser plus loin, puis dans nos pensées physiquement, se pousser, puis arriver à une espèce de niveau. Il faut prendre du moment de recul puis de repos pour absorber cette nouvelle énergie-là, tu sais.
Ouais,
Ça vient
puis
de l'alimentation, de son repos, son sommeil, de tout. C'est vraiment comme une sphère complète. Tu ne peux pas juste manger mieux, mais tout faire le reste mal, puis que penser que ça va fonctionner. Donc, c'est super intéressant, tu sais. Donc,
tellement plus besoin de ça, les femmes, tu sais, de se régénérer, de prendre du temps pour soi, de s'arrêter justement, d'être contemplative. C'est ça qui nourrit notre féminité, notre yin, tu sais. Donc, on nous apprend dans la société à être tout le temps en yang, comme dans l'énergie masculine, là, comme on dit. Fait que ça nous vide, en fait. En médecine chinoise, on va dire, ça va créer un vide de yin. Puis on est trop dans le yang, justement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui va jouer sur les hormones, justement. Qui va jouer sur notre équilibre. Donc, juste de reconnaître qu'on est différentes, on n'est pas des petits hommes, puis qu'on a besoin de beaucoup plus de moments de contemplation, justement, j'aime ça appeler. C'est comme on reçoit, on est très réceptive à l'énergie, tu sais, qui nous entoure. Donc, c'est juste de s'asseoir, puis d'être. Ça, c'est typiquement féminin. Tu sais, on a besoin de juste être puis se laisser guider par cette énergie-là qui nous anime à l'intérieur. Ça, c'est très, très nourrissant pour nous. Justement, on ne va pas se nourrir autant dans l'action que les hommes. C'est parfait. C'est deux manières différentes de se nourrir. Puis les deux sont parfaites. C'est juste que nous, on a besoin d'un plus grand équilibre avec le yin. Tu sais. Fait que ça, souvent, les femmes l'ont oublié. Je l'ai longtemps oublié aussi, puis c'est encore un travail, c'est dans mon quotidien de le remettre plus présent, justement, de me redonner comme ça, d'être dans mon ressenti, d'être dans mon intuition, puis ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien.
Ouais. Puis ça fait tellement du sens parce que, tu sais, on s'entend que pour tomber enceinte, en tout cas, le fait de créer un être humain à l'intérieur de soi, ça prend beaucoup d'énergie, de un, pour se nourrir soi-même, mais pour être en mesure d'accueillir cet être humain-là. Donc, c'est comme tout fait vraiment du sens si on est vide. Puis, tu sais, je suis présentement, ben, tu sais, des traitements d'acupuncture, puis herbes chinoises. Puis, justement, tu sais, on en parle du vide de sang, puis le fait de. Mon corps en ce moment, il est comme en mode de survie. C'est pas que je suis en train de mourir et je suis en bonne santé, mais on appelle ça comme ça parce que justement, l'énergie que je dépense à bouger, à être dans l'action, que ce soit juste physique ou mental, je dépense tellement d'énergie vitale que mon corps, il a dit, écoute, je ferme boutique de la fertilité. On ne peut pas ouvrir ce champ-là parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas réceptif. La terre est sèche. Rien pourrait être cultivable. Donc, il faut que j'aille engraisser ma terre. Il faut que j'y mette des bons engrais pour qu'elle puisse être fertile à nouveau. Donc, c'est vraiment c'est comme l'analogie de l'agriculture, mais c'est vraiment ça. C'est comme la terre fertile.
Puis c'est ça, puis ton corps, dans le fond, il travaille avec toi, il est toujours avec nous, notre corps, il est toujours pour nous. Faut pas voir notre corps comme si, voyons, pourquoi il fait pas ce que je veux, là? Mais c'est pas ça, parce que, dans le fond, il te protège, tu sais, en étant temporairement, tu sais, en ayant de la difficulté en ce moment à concevoir. C'est juste que, dans le fond, il sait que la grossesse, ça serait un trop gros stress de plus pour toi à supporter. Donc, il se dit, attends, c'est pas le moment, on va attendre. On va attendre, puis peut-être que ça va se déposer, justement. Mais en ce moment, il sait que, oh, le niveau de cortisol, il est trop haut. T'sais, par exemple, je sais, t'sais, c'est pas, sûrement pas la seule raison, là, mais c'en est une chez plusieurs femmes. C'est ça. Donc, il sait quand c'est le bon moment. Oh, c'est une grande leçon, je trouve, d'humilité par rapport à la fertilité et beaucoup d'autres choses, en fait. La maladie, souvent, malheureusement. Mais c'est comme si le corps nous disait, il nous disait ce qu'il avait besoin pour se ramener à l'équilibre. Puis nous, on a à le servir. T'sais, on peut pas décider ce que le corps va faire. T'sais, souvent, on veut avoir une emprise sur notre corps, on veut perdre du poids, on veut qu'il soit comme ci, comme ça, mais on fait pas ce qu'il faut pour en dessous de tout ça.
Donc, c'est
Pour ça,
d'être
pour
plus
moi.
excuse-moi, c'est d'être plus à l'écoute un peu, tu sais, de quand tu dis le temps
Totalement.
de contemplation, mais c'est pour aussi connecter un petit peu plus avec ce que le corps a réellement besoin et non ce qu'on aimerait que le corps fasse ou
Ouais.
arrive à un certain point, tu sais. Donc,
C'est ça.
c'est intéressant. Et quand une patiente ou un patient, ou on va l'appeler patiente, là, si on parle de fertilité ou de santé féminine, et quand une patiente vient te voir ou te consulte, comment tu abordes le processus, donc, tu sais, du point A à Z, que ce soit bon, par rapport à la fertilité ou d'autres troubles, mais tu sais, si on pense un petit peu plus en lien avec la fertilité, est-ce que tu vas marier un peu les deux pratiques, naturopathie et nutrition, ou tu sépares ces deux-là?
Ben, dans le sens où ma pratique, je la considère holistique, oui, je vais les marier ensemble, mais c'est certain que c'est ça, on va se concentrer nutrition. Comment j'aborde ça, c'est que premièrement, on va faire un bon bilan de santé, vraiment très complet. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir de la femme, je veux qu'elle me dise à quelle heure elle se couche, à quelle heure elle se lève, comment elle dort, comment elle ressent son énergie dans la journée. T'sais, ce sont comment ses règles, ils durent combien de temps, est-ce qu'elle a mal, est-ce qu'elle a des crampes, des maux de tête. T'sais, je pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions que les gens, des fois, ils sont surpris, même que le médecin ne demanderait pas souvent. Puis aussi par rapport au système gastro-intestinal, naturellement. Puis après ça, je lui demande de me décrire c'est quoi son alimentation en général. Donc, déjeuner, dîner, souper, collation, c'est quoi son rythme alimentaire aussi. Et selon ce que je vois de son bilan de santé et son alimentation, on va commencer à faire des petites recommandations. Donc souvent, c'est très évident, tu sais, qu'il y a des liens, là. Je vois des liens assez vite, la plupart du temps. Donc on commence justement à faire les recommandations. Puis, si c'est par rapport à la fertilité, ben c'est ça. Faut voir. Il y a beaucoup de choses à regarder dans l'alimentation. Tu sais, si elle me dit ça fait plus de 6 mois ou d'un an qu'elle essaie de concevoir, puis ça fonctionne pas, puis que ses règles sont régulières, puis qui n'ont pas l'air d'être problématiques, ben il faut aller creuser plus loin là. Tu sais, est-ce qu'elle a les nutriments nécessaires dans son alimentation que son corps a besoin pour concevoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle mange qui la nuisent, qui nuisent à la fertilité? Fait que c'est comme un travail de détective, là, j'aime ça appeler. Fait que je me sens vraiment comme une petite Sherlockine Holmes. Ouais, c'est vraiment passionnant parce que c'est ça, j'ai la chance, l'honneur de connaître une personne en profondeur avec ce que je fais, puis d'aller voir dans tous les petits recoins de ses habitudes, de sa vie. Ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce qui accroche ou ouais, donc c'est vraiment passionnant.
Puis tu dirais, est-ce que tu serais prête à dire que c'est plus, comment je dirais ça, que tu vois plus dans des cas que c'est ce que les patients mangent qui vont leur donner peut-être des troubles de fertilité ou ce qu'ils ne mangent pas assez? Est-ce que c'est une carence ou c'est plutôt le régime alimentaire?
Bien honnêtement, la plupart du temps, là, la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment le stress. Souvent, les femmes qui sont venues me voir vraiment spécifiquement pour un problème de fertilité, c'est, je vois qu'ils ont un niveau de stress, mais élevé, élevé, élevé. quand les règles sont belles. Tu sais, je ne dis pas quand il y a un problème d'ovaire polykystique ou endométriose, ça c'est autre chose. Mais quand les règles sont belles, puis ils n'arrivent pas à concevoir, puis la nutrition est relativement correcte, là, je vois que c'est le stress est vraiment, vraiment très élevé, là. Tu sais, c'est des femmes qui essaient de performer, qui ne dorment pas beaucoup aussi, qui ont un travail très stressant, qui ont des horaires atypiques. Fait que c'est ça que je remarque en premier. Donc là, on va peut-être travailler un peu sur le stress. Mis à part ça, mais côté nutrition, ce que je vois beaucoup aussi, c'est une peur de manger des bons gras. Ça, c'est un aspect. Souvent, les femmes ont encore l'idée qu'il faut éviter le gras. Donc, ça, c'est une première chose que je remarque souvent, très, très souvent. Et là, on va essayer d'introduire des bons gras, justement, parce que les blocs de construction pour nos hormones, c'est le gras. Tout comme les protéines sont les blocs de construction pour nos muscles, ben, on fait pas d'hormones avec des protéines, tu sais. On a besoin ben oui, là, un peu, mais on a besoin aussi des bons gras. Fait que ça, on va travailler sur ça. Pas mal, souvent la première rencontre. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de produits transformés aussi, quelquefois. Beaucoup de produits raffinés, donc beaucoup de riz blanc. Tu sais, tout ce qui est craquelin blanc, pain blanc, tout ce qui est à base de farine blanche, de riz blanc, ça, je trouve ça, c'est assez commun. Et ça peut grandement nuire à la fertilité parce que ça va jouer sur notre insuline, puis ça, c'est pas bon pour nos hormones. Ça va augmenter le cortisol aussi dans le corps. Alors, on va travailler aussi sur réduire en général l'indice glycémique de l'alimentation, la charge glycémique. On va travailler sur réguler justement les rages de sucre que les femmes ont souvent. Puis augmenter les protéines aussi. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de protéines le soir, puis il n'y en a presque pas le midi ni le matin, si elles déjeunent, tu sais. Fait qu'on va essayer de rééquilibrer ça dans la journée. Puis pas nécessairement en augmentant les protéines animales, mais plus végétales. Donc, pour voir comment on peut plus équilibrer ça, parce que ça aussi, c'est extrêmement important pour la fertilité. Là, on ne peut pas manger je sais pas, un saumon ou une poitrine de poulet le soir, puis rien manger manger aucune protéine, tu sais, pendant la journée, là, c'est pas assez du tout, là.
Puis, en termes de bons gras, quels seraient les bons gras à suggérer?
Ben, mes préférés, c'est vraiment les noix et les graines, comme qui se mettent vraiment partout. Puis ça goûte bon. Des fois, ça goûte pas grand-chose, en fait. Mais j'adore mes cinq préférés, c'est vraiment les graines de chia. Dans le fond, on peut se faire des puddings de chia, ou on peut les intégrer. En fait, on veut pas les consommer quand ils sont pas gonflés, hein, les graines de chia. Souvent, les gens vont me dire, ah, oh, je saupoudre ça sur ma salade, là. Mais en fait, ce qui arrive quand on fait ça, c'est que ça va gonfler en nous. Donc, ça va prendre notre eau, ça va nous déshydrater, ça va nous constiper. Puis après ça, c'est encore mauvais pour le cycle hormonal. Alors, on peut vraiment consommer les graines de chia qui sont gonflées. Les graines de lin moulues en deuxième. Fait que ça aussi, pour les femmes, c'est vraiment un must, en fait, d'inclure ça tous les jours à cause des phytoestrogènes. Donc, ils vont vraiment aider à libérer un excès d'oestrogène qu'on a pas mal toutes, ou presque. Donc, ça, au quotidien, c'est vraiment important. Ensuite, tu as les graines de chanvre, très, très bon gras, très riche en protéines, plein d'antioxydants, très riche en fibres. Donc, ça aussi, on peut en mettre partout. Et les graines de citrouille. Donc, celle-là aussi, c'est vraiment excellent. Niveau gras, niveau zinc aussi, le zinc est excellent pour la fertilité. Donc, c'est cinq petites graines. Dans le fond, c'est toutes des graines, ce n'est pas des noix, mais des graines qu'on veut inclure tous les jours, là, si possible.
Super. Puis,
D'autres bons gras, excuse-moi, d'autres bons gras, ça serait du poisson gras sauvage, du saumon sauvage, par exemple. Ça, c'est excellent. C'est sur le top, là, des poissons gras, ça serait le saumon sauvage. La truite saumonée, sauvage toujours idéalement. C'est certain que le prix est différent, mais si on peut se le permettre, c'est important d'y aller. Du thon bas en mercure, si on peut trouver du thon bas en mercure en canne, en conserve, là. la marque, je pense que ça s'appelle Safe Catch, qui en offre. Je ne sais pas s'il y en a à Montréal, mais j'en trouve ici à Beaumont. Ça aussi, c'est bon. Puis, sinon, les bonnes huiles, l'avocat, très cher vitamine E. Puis, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, les olives, l'huile de chanvre, l'huile de lin, encore une fois, la cameline aussi, c'est une autre huile qui vient de sortir, là. Fait que tout ça, c'est des bons gras à inclure, là, à chaque repas. Pas juste une fois par jour, là, mais un petit peu à chaque repas. Puis, on peut les combiner, là, sans problème.
Super. Bon, ben, je vais aller faire mon épicerie. Non, mais c'est très intéressant. Ben, donc, tu favoriserais une alimentation plutôt tournée vers protéines et lipides, donc des bons gras, plutôt que vers bon, les glucides. Donc, moins de glucides, plus de protéines lipides pour augmenter le gras qui va. Les hormones aiment le gras, c'est ça qu'on comprend. Donc, c'est
Oui,
d'aller.
les hormones sont du gras, en fait. Ils sont construits à partir du cholestérol, du gras. Alors, on a besoin de ça. Oui, donc protéines, bon gras et beaucoup de légumes aussi. On n'a pas parlé des légumes, mais bon, c'est super important, là, tout ce qui est. En fait, tous les légumes, là, j'en exclus aucun. C'est super important d'avoir ça aussi au quotidien. Plein d'antioxydants qui vont aussi aider à la fertilité, plein de vitamines aussi. Donc, les fibres aussi. Et que ça, c'est très important. Puis, c'est pas qu'on n'a pas besoin de glucides non plus. Donc, tu sais, je ne vais pas privilégier non plus une alimentation keto, cétogène, nécessairement. En fait, pour les femmes, je ne pense vraiment pas que ça soit l'idéal. Sauf en certains cas très spécifiques. Mais sinon, on a besoin de glucides, mais en quantité très modérée et avec une bonne qualité en fait de glucides. On a besoin de faire les bons choix au niveau des glucides. Donc, comme je disais tout à l'heure, au lieu du riz blanc, bien, privilégier le riz brun ou le riz sauvage, ou le riz rouge ou le riz noir. Tu sais, c'est tous des riz entiers qui sont beaucoup plus nutritifs que le riz blanc qui est juste au final du sucre, du glucose pour le sang. Puis le quinoa, le sarrasin, tu sais, il y a beaucoup de produits sur le marché en ce moment. Qui proposent justement qui sont qui sont pas raffinés et souvent qui sont sans gluten, donc c'est un deux pour un. Mais c'est pas nécessairement de chercher les aliments sans gluten, c'est de connaître en fait qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis ah, tiens, des pâtes 100% sarrasin, ben c'est exactement ce que je veux, c'est pas écrit sans gluten dessus, mais c'est pas ça que je recherche, c'est l'aliment qui est entier, qui est beaucoup plus complet que des pâtes blanches de blé.
Puis en termes de pourcentage, là, si on avait comme une tarte complète, pourcentage de glucides par rapport à tes lipides et tes protéines, mettons pour une femme mettons on prend mon cas, ben c'est sûr, non, je ne vais pas prendre mon cas parce que mon cas est particulier, mettons je bouge beaucoup, je dépense beaucoup d'énergie, enfin, j'imagine que mon ratio doit être différent, mais une femme, bon. Dans la moyenne, là, qui va bouger quand même 4-5 fois semaine, puis qui a une alimentation normale, qui a un poids santé, tout ça, ce serait quoi le ratio, pourcentage idéal?
C'est dur de parler en ratio. Je trouve que c'est moins concret dans la tête des gens parce que si je dis, par exemple, 30 % de gras, de lipides, ben, dans notre tête, ça peut paraître peut-être beaucoup si je dis aussi 30 % de protéines. T'sais, parce que les gras sont beaucoup plus concentrés en calories. Donc,
Exactement.
j'aime mieux parler en termes de quantité peut-être.
Oui, ça
C'est
va
certain
sûrement être plus clair, oui.
que c'est plus clair
Pour
pour les
tout
gens, c'est ça.
le
C'est ça. Donc, en fait, c'est sûr que ça va varier aussi hein, avec notre appétit. Puis, encore une fois, j'aime même pas parler de quantité parce que je veux que les femmes ou les gens en général suivent leur faim, leur satiété. C'est le corps qui va dire combien tu en as besoin. Mais si on veut, OK, là, tu sais, dire à peu près, ce serait selon la faim encore, puis la taille, la personne et son niveau d'activité physique, peut-être entre une demi à une tasse d'un grain entier, donc de glucides, pour un repas. Après ça serait en termes de protéines, comme si on regarde une grosse canne de thon, là, ça serait toute la canne de thon. Et dans le fond, ça serait de privilégier. Je commence jamais par les glucides. Les glucides, ils veulent compléter un petit peu si on a encore faim, disons, ou ils veulent juste compléter un petit peu. C'est l'accompagnement. Je pars toujours avec, dans le fond, les légumes. Fait que plein de légumes verts, surtout, ou plein de légumes, c'est tout ce qu'on a à la maison, là. Vapeur ou au four ou en salade ou sauté. Et après ça, on complète avec une protéine. OK, c'est quoi ma protéine aujourd'hui? Ah, ben j'ai un beau filet de saumon. Ben, le filet de saumon, il est combien de grammes? Entre 150 et 250, je dirais, 300 peut-être, 350 chez certaines femmes. Donc, je ne veux pas vraiment dire de quantité parce que ça dépend vraiment de notre faim. Mais tu sais, un filet de saumon ou l'équivalent d'une grosse canne de thon. Ou, tu sais, en termes de tofu, ben, ça serait un tiers de bloc, peut-être, ou un demi bloc de tempeh, ou, tu sais, en termes de légumineuses, une demi à trois quarts de tasse. Tu sais, officiellement, les portions, c'est trois quarts de tasse de légumineuses par repas, selon le guide alimentaire. Mais bon, est-ce qu'on est capable de digérer ça? Est-ce qu'on se sent bien après? Tu sais, il faut voir aussi tout ce qu'il y a à côté là, de ça. Là. Donc, j'aime ça individualiser pour chaque personne. Puis après ça, ben, on veut mettre des bons gras. Fait que là encore, je ne calcule pas vraiment, mais tu sais, on va mettre, tu sais, rajoute du chanvre. Est-ce que je vais rajouter une demi-tasse de chanvre dans ma salade? Non. Je vais rajouter peut-être une à deux cuillerées à soupe de chanvre ou de graines de citrouille ou des autres graines qu'on a dit tout à l'heure, sauf le chia. Puis, je vais mettre une bonne huile d'olive parce que je veux une vinaigrette avec un quart gras dans ma salade ou mes légumes. Puis, je vais peut-être prendre un quart ou un demi d'avocat avec ça. T'sais, fait que on combine les choses. Puis, est-ce que j'ai vraiment calculé mes portions? Non, tu sais. Puis, si j'ai pas faim, puis il me reste trois bouchées dans mon assiette ou une bouchée, je la mange pas. Parce que c'est mon corps qui me dit, il y en a eu assez. Fait que ça, c'est ma vraie portion, c'est ça. Donc, je me fais une belle assiette, puis je mange jusqu'à temps que j'ai plus faim.
C'est de ralentir le débit de manger. Là, souvent, je me rends compte des fois, tu sais, j'ai vraiment très, très faim. Je me fais une grosse assiette, puis là, je mange vite, puis là, j'ai plus faim du tout. Là, j'ai quasiment mal au ventre. Puis je sais que si j'avais pris plus mon temps, eh bien, j'aurais sûrement arrivé à mon point de satiété.
C'est certain. Oui, ça aussi, c'est une pratique. T'sais. Ça fait des années aussi que je travaille ça. Ça se travaille. C'est un travail constant. Puis il y a des fois où on l'oublie, puis il y a des fois où ça revient. Fait que c'est pas. Faut pas se chicaner là, par rapport à ça. C'est juste que d'en prendre compte, c'est vraiment la première étape. Puis c'est sûr que si on ralentit, comme on dit, le message va passer au cerveau, puis on va se rendre compte qu'on n'avait plus faim. Mais c'est ça, dans le fond, c'est d'apporter de la conscience quand on mange. Comme faire n'importe quoi. Puis, comme tout ce qu'on pratique, éventuellement, tu sais, on n'est pas obligé de manger comme un moine avec, tu sais, devant la fenêtre. Ben oui, là, ça peut être extraordinaire de faire ça, cette expérience-là, manger devant la fenêtre puis observer la nature. Mais on est capable de le faire éventuellement en faisant d'autres choses aussi, parce qu'on reste en contact avec notre corps. On reste en contact avec ce qui se passe à chaque instant, même si on est en train de lire, ou si on écoute de la musique, ou si on parle avec des gens en mangeant. Donc, idéalement, c'est de se rendre à cette étape-là, tu sais, mais c'est possible.
Tu as mentionné plus tôt bon, le régime keto, cétogène. Puis j'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça parce qu'on s'entend qu'on dirait qu'il y a toujours des nouvelles façons de manger. Les gens testent des choses. En tout cas, je regarde un peu ça, ce qui se passe. Même moi, tu sais, j'ai testé quelques types de régimes alimentaires juste pour voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux. Puis ça devient un peu mêlant, un peu déstabilisant même de trouver sa façon de manger parce que il y a des gens, tu sais, il y a des régimes plus stricts, moins stricts. Puis où est-ce qu'on se situe là-dedans? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Laquelle est la meilleure? Est-ce qu'il y en a une bonne? Est-ce qu'ils sont tous valables selon ce qu'on a besoin? Donc, est-ce que tu suggère des fois des régimes alimentaires, pas des régimes, mais des façons de manger où tu t'en tiens pas compte, ou si oui, est-ce qu'il y en a que tu priorises?
Oui, c'est une bonne question, ça aussi. Je pense vraiment que toutes les manières, les méthodes d'alimentation, les diètes, les régimes qui sont commercialisés, on pourrait dire, ça nous enlève en fait de nos besoins. Ça nous coupe de nos besoins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage dans des cas particuliers, comme j'ai dit tout à l'heure, à commencer une diète keto, par exemple. C'est juste que ce que je vois beaucoup dans ma pratique, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui sont capables de le tenir à long terme. Et n'importe quelle diète, ça marche jusqu'à temps que tu l'arrêtes. Donc, c'est fait pour être tenu longtemps. Fait que si pour la personne, elle se sent super bien sur le céto, puis tu sais, c'est pas trop restrictif pour elle, puis son énergie est belle, puis ça l'a tout replacé ses hormones, puis elle continue de même. Si elle se disait dans le fond, si je peux continuer de même jusqu'à la fin de mes jours, ben parfait, vas-y, puis je vais l'encourager là-dedans, puis je vais lui dire comment faire, comment être équilibré là-dedans. Mais c'est 1% de ma clientèle, je pourrais dire, et même peut-être moins que ça. Dès qu'on mentalise ou dès qu'on intellectualise, tu sais, notre diète, on se coupe de nos sensations, de nos besoins. L'alimentation, c'est pas quelque chose qui est supposé être justement mentalisé. Tu sais, c'est un mot, là, je sais même pas, qui est intellectualisé. C'est quelque chose d'instinctif. Sais, notre instinct nous a permis de survivre jusqu'à maintenant sur cette terre. Donc, puis tu sais, l'homme n'a jamais eu une diète à suivre. Il ne s'est pas dit, oh, regarde les beaux fruits qui poussent. Oh, mais non, je ne peux pas manger ça parce que c'est hors de ma diète. Lui, il voulait survivre, là.
Non,
Fait que,
c'est ça parce que c'est ça qu'il y avait. Ouais, c'est ça.
la nature me donne ça, c'est sûr qu'il va le manger. T'sais. Fait que quand on pense de même, il n'y en a pas de restriction. On peut manger de tout. Puis, c'est ce que je trouve dommage par rapport aux régimes spéciaux, c'est qu'on intellectualise ce qu'on doit manger et on n'est plus à l'écoute de notre corps. Puis, je pense que vraiment que c'est là que les problèmes arrivent. Parce que, tu sais, moi, j'ai été végane pendant à peu près 12 ans, végétarienne, crudivore pendant 2 ans, sans gluten pendant très, très longtemps aussi. Tu sais, j'en ai essayé beaucoup d'affaires, là, des jeûnes aussi, puis des monodiètes, puis nomme-les, je les ai faites. Puis, je dis pas que j'ai ruiné ma santé là, en faisant ça, c'est juste que je voyais l'effet que ça avait sur moi, puis je voyais l'effet autant physique que psychologique aussi que ça amenait dans ma vie. Ouais, donc, je vais pas trop m'éparpiller par rapport à ça, là, mais je voulais revenir par rapport au céto plus concrètement, dans le fond, ce que ça fait aux femmes, parce que je l'ai dit aussi tantôt. Ça a un effet différent sur les femmes que sur les hommes. Puis cette raison-là, c'est que chez la femme, ça va vraiment augmenter les taux de cortisol, donc d'hormones du stress. Ça le fait aussi un peu chez les hommes, mais beaucoup moins. Puis le cortisol a moins un effet drastique, je te dirais, sur leur testostérone. Ça en a un là, quand même, là, mais c'est beaucoup plus subtil chez la femme. On est beaucoup plus sensible au stress. Donc, quelque chose, une alimentation qui va augmenter notre cortisol, moi, je te dis, t'sais, on ne va pas là, là, parce que c'est exactement le contraire qu'on veut faire. Puis ça le fait parce que le corps est en manque de glucides, puis il doit aller sortir du glycogène des muscles et du foie. Puis ça va faire augmenter l'insuline. Puis au final, ça augmente aussi le cortisol. Puis quand le cortisol dans le sang est élevé, le corps privilégie toujours de faire du cortisol par rapport aux hormones sexuelles. C'est toujours la priorité, là, dans le fond, notre survie, c'est notre cortisol, c'est les hormones du stress. Si on ne réagit pas, puis qu'il y a un danger, il y a un lion, puis oh, c'est pas grave, ben là, il y a vraiment un problème, on ne survivra pas longtemps. Donc, notre corps est fait pour privilégier le cortisol. Donc, si on a un mode de vie ou une alimentation qui favorise la sécrétion de cortisol, on inhibe, on brise la production de nos hormones sexuelles et de la thyroïde qui ont un lien ensemble, en fait.
Juste pour mettre en contexte, l'alimentation cétogène, là, pour ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est de passer, dans le fond, c'est d'avoir une alimentation qui est strictement sur les protéines et les lipides, donc zéro glucides, donc de rentrer dans une phase de cétose et que le corps se nourrit du gras au lieu des glucides. C'est
C'est
ça,
ça.
grossièrement, là.
Exactement.
Et ça,
Puis,
vas-y. Je t'écoute.
ben, ce que je déplore de cette diète-là, c'est que comment ils l'ont commercialisée, c'est avec beaucoup, beaucoup de protéines animales et de gras animaux aussi, de bacon, tu sais, vive le bacon, là, c'est ça, on l'a entendu, de beurre et tout ça. Puis c'est correct à un certain niveau, mais ce que je voyais dans mes clients, avec mes clients, c'est que il y avait beaucoup, en fait, il y avait trop de gras. Il y avait trop de gras, trop de protéines animales, puis c'est là que ça ne marchait plus, puis il n'y avait pas assez de légumes. T'sais? Donc, on peut, à la limite, bien équilibrer une diète cétogène, je pourrais dire. Ce n'est pas vraiment un équilibre parce qu'il manque vraiment de glucides, surtout pour la femme, mais en favorisant vraiment plus les légumes avec les bons gras et des protéines aussi animales, mais plus. C'est de bonnes sources. Donc, un morceau de bœuf d'élevage, comparativement à un bœuf qui a été nourri à l'herbe et qui est élevé localement ou sans hormones, sans antibiotiques, il y a un monde de différence. C'est deux aliments complètement différents. Même chose par rapport aux œufs, des œufs d'élevage ou des œufs de poule en liberté, bio, qui ont été nourris à l'herbe avec des vers de terre et tout. L'œuf est complètement différent. C'est deux aliments différents, donc on doit être conscient aussi.
On le voit aussi dans la texture, dans la couleur, tu sais, directement,
Tellement.
on voit, j'ai une amie qui a un poulailler, là, elle habite au lac Brôme et elle nous amène des fois des œufs puis on regarde la différence quand on se fait des omelettes puis c'est comme c'est fou là tu sais le goût est différent tout est différent tu sais fait que
Ouais.
c'est clair que au niveau nutritionnel ça doit changer ça doit jouer un rôle assez important là.
Complètement, il y en a un en fait qui est inflammatoire, puis l'autre va être anti-inflammatoire. Donc, c'est deux mondes différents, là. Puis l'inflammation aussi joue sur notre fertilité, donc on veut diminuer l'inflammation au maximum quand on veut concevoir.
J'aimerais avoir ton avis parce que là, ça, c'est la question qui tue, ben, qui tue pas, mais que je voulais vraiment te poser pour savoir qu'est-ce que tu en penses du jeûne intermittent. Le fameux jeûne intermittent que j'ai l'impression que tout le monde essaie. Beaucoup de monde essaie, là, je veux pas généraliser, mais comme c'est comme la tendance alimentaire, c'est pas un type de diète, mais c'est une façon de, on va dire, de manger à certaines heures. Là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le jeûne intermittent? Il y a différents modèles, soit le 8-16 ou le 21, quelque chose. En tout cas, c'est de ne pas manger, d'être dans un jeûne pendant un certain nombre d'heures et d'avoir une fenêtre de repas qui est un X nombre d'heures. Donc, si on prend le 8-16, c'est 8 heures de fenêtre de manger, de repas, pour 16 heures de jeûne. Donc, admettons, tu arrêtes de manger à 8 heures le soir, tu remanges 16 heures plus tard. C'est quoi? C'est midi, ça, 1 heure? Si je fais une
Oui.
12, 12, plus ça fait 16, donc à midi. De 8 heures le soir à midi, tu es dans un jeûne, donc tu commences à manger ton premier repas à midi. Mais l'enjeu, ben pas l'enjeu, mais le défi, si on veut, c'est de garder le même nombre calorique par jour. Malgré une fenêtre plus restreinte, c'est plus d'amener ton estomac à avoir un certain répit, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc,
Oui,
bref, c'est-tu bon, c'est pas bon, ça? Qu'est-ce que tu
Alors, ah, tellement de choses à dire sur ça aussi.
en penses?
Encore une fois, encore une fois, on revient à intellectualiser notre alimentation. On calcule, tu sais, ah, il est midi, je peux manger, tu sais, ça fait 16 heures, là, yes, je l'ai faite. C'est rendu intellectuel, puis on se coupe de nos signaux. Alors, oui, ça diminue l'inflammation de faire une pause, justement, de faire un espèce de jeûne comme ça intermittent. Ça va diminuer l'inflammation, ça augmente la régénération cellulaire, ça peut même rallonger les télomères, tu sais, les petits bouts de lacets de nos gènes, en fait, sur notre ADN, qui disent, dans le fond, à quel point on est vieux. Donc, oui, ça a beaucoup de bienfaits par rapport au corps. Ça peut aussi aider à normaliser les hormones chez les femmes. Et ce que j'aime aussi de ça, c'est que ça nous force souvent, selon ce qu'on fait, là, selon le mode qu'on veut adhérer, c'est que ça va nous faire manger plus tôt dans la soirée. Donc, ça, c'est bon de ne pas manger trop tard, justement, puis d'être dans un processus de digestion pendant la nuit, ce qui va nuire au sommeil, nuire à la mélatonine qu'on va sécréter, donc à la réparation, à la régénération cellulaire et à la détoxification aussi de notre corps, notre foie. Alors, ça, c'est les côtés positifs, je te dirais. Donc, oui, faire une pause et oui, manger plus tôt. Par contre, c'est ça. Donc, à quel point on intellectualise ça? Avec la société, en fait, avec le 9 à 4, le 8 à 5, là, je ne sais pas trop, avec les horaires d'usine, on pourrait dire, pas d'usine, mais t'sais, traditionnellement, ça vient de là, cet horaire-là de travail. C'est qu'on a, on a rendu notre horaire très strict d'alimentation. T'sais, nos repas, très stricts. T'sais, tu manges quand tu te lèves, tu pars au bureau, tu manges le midi, même si tu n'as pas faim, puis le soir quand tu reviens. Fait que c'est rendu très intellectualisé encore une fois, puis on n'est pas en train d'écouter nos signaux. Je pense que le jeûne intermittent peut être bon pour, par exemple, des femmes qui vont me dire, je me lève le matin et je n'ai pas faim. T'sais, je me force, ça fait 25 ans, je me force pour déjeuner. T'sais. Puis là, ils mangent en bas de le céréales sucrées, puis ils se forcent, puis ils pensent que c'est mieux pour elles, mais pas nécessairement. Alors là, je vais leur dire, attends, t'es pas obligé de te forcer, là. Est-ce que, par exemple, à 10 heures, à ta pause, est-ce que là, tu aurais peut-être plus faim? Est-ce qu'on peut se trouver un moyen d'apporter un meilleur déjeuner pour toi à un moment où tu aurais plus faim, puis de remanger à midi, puis t'sais, même s'il y a 2 heures d'écart, là, puis de remanger après ça quand tu reviens chez vous, puis après ça pour un souper. Donc, le but, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, je pense, c'est d'écouter sa faim. Moi, personnellement, je jeûne de façon naturelle, si je pourrais dire. Je finis de souper, souvent le plus tard que je vais finir, ça va être à 7 heures, puis je déjeune pas avant 10-11 heures. Puis moi, je savais même pas que je faisais un jeûne intermittent, là. T'sais, fait que ça donne à peu près 16 heures, je pense. Mais je fais ça parce que j'écoute juste ma faim, t'sais. Puis je me sens bien comme ça, puis mon corps, il reçoit bien. Donc, je mange jamais si... Je vais jamais me forcer à manger le matin, même si je dois partir en quelque part, puis j'ai pas faim. Je m'apporte quelque chose, je vais planifier. Mais c'est ça, je vais jamais me forcer parce qu'il était l'heure. C'est ça. Alors, encore une fois, il faut voir... Parce que le côté du stress, c'est comme avec le keto, faut voir est-ce que ça cause un stress de plus à la femme si elle décide de faire le jeûne intermittent. Donc, si oui, ben non, on ne va pas vers là, ce n'est pas la bonne méthode, on va en trouver un autre. Mais si c'est naturel, si la femme dit vraiment, oh non, je ne déjeune pas, puis tu sais, je me sens bien quand même, tu sais, je mange à midi, puis je n'ai pas si faim que ça. Ou, tu sais, même je me permets, je vais lui dire, ben, permets-toi de dîner à 11 heures, même si tu peux, si ta job le permet. Puis, souvent, les femmes vont se sentir mieux comme ça, puis ils ne vont pas attendre une certaine heure avant de manger. Mais ils vont juste suivre leur envie, en fait. Et ça, quand il n'y a pas de cortisol qui est sécrété avec un certain mode alimentaire, ça va diminuer l'inflammation, ça va augmenter le bien-être, puis oui, ça peut aider à réguler les hormones aussi.
Intéressant. Donc, c'est de prioriser une alimentation intuitive plutôt que de se restreindre à des heures. Puis, ça, c'est sûr que c'est. Je l'ai fait pendant quand même un moment, le jeûne intermittent, tu sais, à justement me forcer. Ben, je ne me forçais pas nécessairement parce que je m'entraîne à jeûne le matin. Fait que naturellement, ben, tu sais, je me lève, je prends un café par contre. Là, fait que c'est comme, c'est pas le pur jeûne où est-ce que tu vas juste boire de l'eau ou un café noir. Là, tu sais, je mets du lait d'avoine ou d'amande dedans, donc je triche un peu. Et là, je m'entraîne le ventre vide parce que je me sens beaucoup mieux comme ça. Je ne pourrais pas m'entraîner avec un déjeuner dans le corps. Puis souvent après l'entraînement, ben, je ne mange pas tout de suite après parce que je n'ai pas faim. Fait que je le fais comme naturellement, comme toi, tu le fais aussi. Mais des fois, il y a des journées où j'ai plus faim. Peut-être parce que ce que j'ai mangé la veille ou je ne sais pas, mon corps il est plus dans un mode, OK, là, j'ai besoin d'un petit peu plus de juice aujourd'hui. Je me forçais longtemps à faire comme, non, c'est pas ton heure de manger, c'est pas tout de suite. Puis là, je suis en train de faire dans mon processus, tu sais, parce que, bon, c'est pas, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai des, on va dire, une situation plutôt plus difficile de fertilité, on va l'appeler comme ça, tu sais, j'essaie de trouver un cycle menstruel et de retrouver une santé hormonale. Et je me suis dit, ben, gars, si j'ai faim, je vais manger, puis je suis moins dans la restriction de ce que je vais manger, donc au niveau des aliments, et à quand est-ce que je vais les manger. Puis comme tu dis, tu sais, c'est comme, il y a comme un genre de stress ou une charge qui s'enlève par rapport à ça, une espèce de comme lâcher prise, de comme, ah, tu sais, je peux-tu faire ce que je veux là, avec ça? Tu sais, c'est rien de mal, c'est juste de manger à l'heure que je veux, puis des bons aliments, bien sûr, toujours, mais de manger, de ne pas me dire, ah là, je ne devrais pas manger ça dans cette optique-là. Puis j'ai l'impression que juste enlever cette couche-là de restriction enlève une charge mentale ou une charge de stress qui est dans un pas de plus vers le chemin que je vais aller, qui est une santé, une fertilité, parce que mon corps, je l'ai malmené, entre guillemets, pendant très, très longtemps, je pense. Pas malmené, mais je l'ai poussé à ses limites. On va dire ça comme ça. C'est plus ça. Je l'ai poussé à ses limites, physique, mentale. Tu sais, j'ai fait de la danse, moi, pendant 15 ans. Après ça, j'ai fait du crossfit, de la course, tu sais, name it, là. Fait que physiquement, je l'ai poussé. Fait que, tu sais, c'est ça. Mon corps, il est encore dans un mode comme je dois me battre constamment. Et là, en ajoutant l'alimentation, en plus avec ça, on dirait que là, j'y donnais là, encore plus de fil à retordre. Donc, j'espère que ça dédramatise un peu cette discussion-là qu'on a, toi et moi, et que ça l'inspire d'autres personnes, d'autres femmes, particulièrement à juste peut-être lâcher prise à certaines choses qui sont peut-être pas nécessaires. Quand tu prends du recul, tu dis, je le fais-tu parce que j'en ai vraiment besoin? Tu sais, si c'est pour une perte de poids ou que la santé... Elle a un problème de santé, la personne qui va l'amener à avoir ce type de régime-là, de diète-là qui est nécessaire, OK, fine, mais si c'est juste parce qu'on le voit via des articles ou d'autres personnes le font, puis c'est comme moi aussi, je vais le faire parce que je veux le tester ou je veux perdre ce poids-là qui, dans le fond, va peut-être même pas arriver juste parce qu'on veut faire comme tout le monde, ben, tu sais, je me suis posé cette question-là, puis je me suis dit pourquoi je le fais, dans le fond. T'sais.
Exactement.
Fait
Ah
que c'est une question à se poser, je pense, puis c'est important, puis ça revient à notre discussion de comme ramener une attention plus à soi-même, à ce que notre corps a besoin, parce qu'on est tous différents. On n'a pas la même morphologie, la même physiologie. On n'a pas besoin des mêmes choses. Il y en a qui ont besoin de 4 heures de sommeil, d'autres personnes, c'est un 10 heures minimum. Pour fonctionner, il y en a qui sont capables d'avoir 4 jobs en même temps, ouais, 10 heures pour toi. Mais c'est ça, tu sais. Puis il y en a qui sont capables de faire ça, 4 emplois à la fois, avoir plein de projets, puis c'est ça qui les stimule, puis ça a leur plein potentiel dans cette situation-là. Puis d'autres personnes, un emploi, une tâche, ou tu sais, comme quelque chose sur lequel ils vont focusser, puis c'est ça qui les amène à mieux se développer. Fait que l'alimentation, c'est la même chose, t'sais. On n'est pas tous faits sur le même frame, on n'a pas tous les mêmes besoins. Fait que, t'sais, c'est tellement important de rester connecté à ces besoins profonds. C'est pas
Je
évident,
pense. Non, c'est pas évident, puis en même temps, c'est tellement simple.
t'sais. Oui, c'est ça.
C'est comme être un enfant, tu sais, l'enfant, il va pas se demander, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim, il va juste manger quand il a faim, puis il va manger ce qu'il aime, comme un animal. Tu sais, on regarde nos animaux domestiques ou un animal dans la nature, puis c'est ça qu'ils font, hein? Ils se posent pas de questions. Donc, je pense qu'on a intérêt à observer plus la nature et les enfants. Mais c'est ça, c'est de revenir à un état plus instinctif par rapport à la nutrition, puis de laisser tomber tout ce que l'industrie nous propose, parce qu'il y a souvent un but de marketing, en fait, derrière ça. Puis quand on revient, dans le fond, à nos besoins, à nos envies, le corps s'équilibre naturellement. Notre équilibre, c'est notre état naturel. Donc, si on l'écoute vraiment, on revient à l'équilibre. On ne peut pas faire autrement. Puis, c'est ça, c'est certain qu'il y a des choses qui brouillent la communication entre notre corps et nous. Fait que ça, c'est un autre travail qu'on doit épurer. T'sais. C'est quoi qui brouille justement? Pourquoi je n'arrive pas à entendre ce que mon corps veut? Parce que souvent, les gens vont me dire, ben, moi, si je m'écoutais, je mangerais juste de la poutine, des chips et du chocolat, tu sais. Mais attends, est-ce que vraiment ton corps, il veut ça quotidiennement? Est-ce que tu te sentirais vraiment bien? Ou c'est juste que tu t'es tellement restreinte par rapport à ça pendant tellement d'années que là, il a envie de ça parce que c'est comme l'enfant en nous, tu sais, qui veut avoir du plaisir puis qui veut manger des choses interdites. Alors, ouais, c'est très... C'est ça, dans le fond, de juste revenir puis de commencer à se faire des repas qui sont très nourrissants, de ne pas avoir peur des bons gras, de remplacer les types de glucides, d'augmenter les légumes, tout ça, d'augmenter les bonnes protéines aussi. Fait que je pense que graduellement, les signaux du corps se raffinent quand on commence à faire ce travail-là. Ouais.
Vraiment intéressant. C'est tout un travail mental.
Aussi, oh oui.
J'imagine, toi et moi, on est professeurs de yoga, donc oui, on enseigne. Personnellement, j'enseigne plus les asanas, mais je touche un peu à la méditation aussi, puis je m'intéresse de plus en plus à ça. Je ne sais pas de ton côté, mais ça l'aide. J'ai l'impression que j'ai besoin d'aller explorer cet aspect-là plus. Moins dans le mouvement physique, plus dans un calme, justement, un yin, au lieu d'être dans l'action encore, parce que je sens un débalancement, tu sais, une carence, puis il faut que j'aille me puiser là-dedans. Fait que je pense que c'est ça pour la nutrition, c'est la même chose, c'est de rééquilibrer ses envies par rapport à ce qu'on a vraiment besoin, par rapport à ce que le corps a besoin, tu sais, c'est de trouver le bon, comme un teeter board, là, l'endroit où est-ce que les deux bouts du teeter board, ils restent en équilibre, tu sais, en suspension.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, l'équilibre, c'est pas de tout le temps être comme ça non plus. Tu sais,
Exact.
l'équilibre, c'est être de même, là, tu sais, comme sur une planche de surf, là.
Ouais. Tout le
Donc, c'est de
mouvement, en fait.
surfer. Oui,
Ouais.
c'est le temps en mouvement, c'est ça. Donc, quand on écoute, tu sais, des fois, on a envie de chips, puis prenons des chips, tu sais. Je veux dire, les envies sont pas tout le temps avec de la salade verte, là. Donc, quand on écoute réellement, puis qu'on est en contact avec ça, le corps, il va dire exactement ce qu'il a besoin. Donc, c'est pas de tout le temps faire des choix les plus hyper santé, là, puis être rentrer encore, en fait, dans le perfectionnisme, ce que la majorité des femmes veulent trop atteindre. T'sais. Dans le fond, on est déjà parfaite. Puis regardons notre perfection maintenant, puis notre perfection nous dit à chaque instant. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour se faire nourrir maintenant? Donc, tu sais, on n'a rien à atteindre. On l'est déjà en ce moment. Puis, ouais, c'est fou comment la société, dans le fond, elle nous apporte dans un rythme qui n'est pas le nôtre. Tu sais, juste, tu mentionnais le café tout à l'heure. J'ai fait une expérience ici cet automne en coupant la caféine complètement. Puis, c'est pas que j'étais accro là avant, tu sais, je prenais un matcha par jour à peu près, ou tu sais, je prends un thé vert le matin, puis peut-être un thé noir l'après-midi, ou un ou deux cafés par semaine. Mais là, j'ai fait le test de couper la caféine, puis c'est fou comment je me sentais décalée par rapport au rythme de la société. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'en prends plus, puis je me sens dans mon rythme. Je ne suis pas dans un rythme qui est imposé par les autres d'aller toujours plus vite puis d'être toujours plus productive. Puis c'est sûr que ça nous confronte Parce que là, on est comme, oh, OK, attends, on n'est plus aussi productif, peut-être que la société le voudrait, on n'est plus dans le game, là, tu sais. Il y a comme quelque chose de différent. Mais je me sens tellement, tellement bien depuis. Puis je me demande comment je faisais pour être là-dedans avant, tu sais. C'est juste comme. Puis je ne dis pas que je ne vais pas en reprendre, là. C'est juste que je ressens beaucoup plus maintenant l'effet sur mon énergie, sur ce que je dégage quand j'en prends. Donc, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aux femmes aussi qui veulent procréer et qui veulent retrouver un équilibre hormonal. C'est est-ce que par rapport, est-ce qu'au lieu de ton café caféiné, est-ce que tu ne pourrais pas essayer un décaf maintenant? T'sais? Ou faire moitié-moitié, déjà commencer par moitié-moitié, puis graduellement aller vers un décaf. Puis la plupart des femmes, là, ça me disent que ça fait une énorme différence dans leur vie. Déjà, ils se sentent beaucoup plus posés, ils commencent à prendre plus soin d'elles, commencent à être plus dans leur yin, justement, à cultiver ça. Hop, les crampes menstruelles disparaissent, les règles se régularisent. T'sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on accepte notre rythme. Puis qu'on n'essaie pas de tout le temps être au service d'un idéal qui n'est pas en fait un idéal, là, qui est un idéal qui est extérieur au nôtre, qui n'est pas nécessairement bon pour nous, en fait.
Ouais, parce que la caféine, c'est un stimulant, donc il y en a qui deviennent vraiment dépendants de ça. Ça devient psychologique, là. Quand tu n'as pas ton café, là, on dirait que tu as une mauvaise journée ou, ou
Oui,
ton. Là. C'est
ça
ça.
augmente le cortisol, donc ça diminue la fertilité. Même un café par jour, les études le montrent que ça diminue la fertilité. Donc, c'est souvent la première chose que je regarde, l'alcool et le café. C'est les deux choses, ouais, principales.
Ben, c'est tu comme tu conseillerais de couper les deux complètement. Ben là, on vient de parler du café, mais même l'alcool aussi, le vin, les
Si on
alcools.
veut vraiment tout mettre les chances de notre côté, oui.
OK.
Oui. Vraiment, l'alcool ne nous sert pas en aucun point. On l'a beaucoup vanté avec le docteur Béliveau, les anticancers, le vin rouge, tatata. Aujourd'hui, on se rend compte que les recommandations qu'on a faites il y a 15 ans par rapport à ça, qui est de un verre par jour pour les femmes, deux verres pour les hommes, c'est beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Puis le Québec, en général, s'est permis de boire, tu sais, le vin, la consommation d'alcool a augmenté ces dernières années. C'est fou parce qu'on s'est comme déculpabilisé. Puis c'est ça, donc.
On est des bons buveurs au Québec, puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on s'est permis de profiter de ce plaisir-là parce qu'on se faisait dire que c'est bon un verre de vin rouge, il y a des antioxydants.
C'est vrai qu'il y en a, c'est vrai, tu sais, fait que ce
L'équilibre.
serait, c'est l'équilibre.
Et Karine, si tu avais des conseils ou des recommandations à donner aux femmes qui ont des situations peut-être plus difficiles au niveau de la fertilité, qu'est-ce que ce serait? Je sais qu'on a parlé déjà plein de choses, mais est-ce qu'il y a certaines choses ou une chose en particulier que tu aimerais ajouter?
Mais premièrement, c'est ça, c'est par rapport au stress, c'est de voir comment on peut le diminuer dans notre vie, comment on peut justement être plus zen. Ça va déjà faire une grosse, grosse différence dans la fertilité, puis pour l'équilibre hormonal, dans le fond. Et au niveau des repas, c'est vraiment d'aller voir la composition de nos repas. Est-ce que j'ai assez de protéines? Est-ce que j'ai mes bons gras? Est-ce que j'ai mes protéines? Est-ce que j'ai mes, excuse-moi, mes légumes? Donc, beaucoup de légumes verts aussi, surtout pour l'acide folique. Hein. On sait que l'acide folique est important pour la fertilité. C'est ça. Est-ce que ma composition est bonne? Est-ce que si je mets des glucides dedans, est-ce que c'est des grains complets? Est-ce que c'est des bons grains, justement? Ça serait pas mal ça, le gros, là, si on ne va pas dans les détails, ça serait ça, l'image principale. Puis, si on veut rajouter, c'est ça, certains suppléments qui peuvent être importants aussi. On veut s'assurer d'avoir des bons taux de vitamine D. Donc, soit se faire tester par un test sanguin, juste voir si on a assez des bons taux de vitamine D, puisque ça aussi, ça peut diminuer la fertilité. Est-ce que je prends mes oméga-3? Ça, des oméga-3, on peut les prendre en supplément ou bien dans l'alimentation, mais il faut vraiment que ça soit quotidien avec le saumon, par exemple, ou le thon, les noix, les graines. Est-ce que je digère bien aussi? Est-ce que j'ai quelque chose par rapport à ma digestion que je sens qui fait pas, là? Est-ce que j'ai des gros problèmes de digestion, de constipation, de diarrhée, des ballonnements, n'en plus finir, des reflux? Donc, tout ça va jouer aussi, en quelque sorte, sur est-ce qu'il se passe quelque chose, tu sais, est-ce que j'absorbe bien mes nutriments, puis ou bien est-ce que il y a des hormones qui sont en circulation constamment dans mon corps qui pourraient être éliminées plus facilement. Donc, peut-être que mes organes éliminatoires, comme le foie, les intestins, fonctionnent pas à leur maximum. Peut-être que j'ai pas assez d'acide chlorhydrique pour bien digérer dans mon ventre. Peut-être que j'ai pas assez d'enzymes digestives. Donc, on veut aller voir, t'sais, par rapport à est-ce qu'il y a un intestin poreux, tout ça. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment relié aussi à la fertilité comme telle, puis à l'équilibre hormonal. Donc, ça serait ça mes points. Puis de s'écouter, vraiment, ça c'est aussi un numéro un, là. Donc, d'écouter sa faim, sa satiété, t'sais, de pas se fier à un régime précis pour, t'sais, dans l'espoir que quelque chose sur papier va nous correspondre. T'sais, le corps a son intelligence, puis ça doit venir de nous.
Ouais, j'adore ça. C'est vraiment ça le point, je pense, qu'on peut faire ressortir de notre conversation. Donc, c'est super. Écoute, c'était vraiment une très belle conversation. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu à tout ça
Merci à
avec
toi.
autant de détails et de faits et de en tout cas d'éléments intéressants qu'on peut certainement absorber puis intégrer dans notre quotidien, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux si jamais il y a des gens qui veulent t'écrire ou prendre rendez-vous avec toi? C'est quoi tes coordonnées?
J'ai une page Facebook Pro, donc ça serait Karine Mousseau Nutrition. J'ai aussi un site web qui est www.karinemousseau.com et j'ai une page Instagram avec qui est Camousseau ou Karine Mousseau, je pense qu'on peut me trouver. Donc c'est comme ça. Pour prendre rendez-vous, c'est vraiment par rapport via mon site web, en fait, c'est le mieux. Par courriel, c'est le mieux. Il y a aussi mon numéro de téléphone si vous préférez, si les gens préfèrent me parler directement. Ça me fait plaisir aussi de répondre à leurs questions comme ça. Donc, je fais des consultations, dans le fond, à Bromont, à mon bureau, ou en ligne aussi par Zoom, comme on fait en ce moment. Je suis à peu près 50-50 en ce moment, là, donc ça marche très bien par Zoom. Puis j'ai des clients à Montréal, puis un petit peu partout au Québec. Donc, c'est aussi une possibilité là, si vous n'êtes pas près de Bromont.
Super. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? Moi, est-ce que tu as des projets en lien avec la nutrition, parce que je sais que tu es conférencière, donc tu animes des ateliers des fois. S'il y en a qui arrivent là, prochainement.
Oui, donc il va y avoir la prise 2 ou la deuxième édition en fait de Expo Yoga et Bien-être. Donc il y a eu la première édition cette année, en tout cas à l'automne dernier, où j'ai fait la conférence sur la nutrition et les cycles féminins. Puis là, cette fois-ci, on va se pencher plus sur les troubles hormonaux, justement. Donc, on va en détail par rapport à l'endométriose, à tout ce qu'on s'est parlé, les ovaires polykystiques, les SPM, les migraines, l'acné hormonale. Donc, ça va être super intéressant. Je suis en train de faire une conférence sur ça. Ça va être en ligne, dans le fond, à partir du 8 février. Je vais poster un lien sur mes réseaux sociaux, justement, pour s'inscrire. Et à part de ça, je fais un programme aussi qui s'appelle DS In and Out avec mon amie Claudie Laberge. Donc, c'est un programme entièrement en ligne aussi pendant un mois où il va avoir en fait des conférences ou des vidéos de nutrition, du coaching, des entraînements fonctionnels, du yoga, de la méditation, de la respiration, du journaling aussi. Fait que c'est très complet, dans le fond, un mois pour soi, pour les femmes, pour retrouver leur vitalité intérieure, puis prendre soin de soi à plusieurs niveaux.
Super intéressant. Excellent. Écoute, ben, on va te suivre sur les réseaux, puis On va prendre des notes sur comment optimiser notre nutrition et notre intuition surtout. Donc, merci encore, puis au plaisir de se voir en personne éventuellement.
On va y arriver.
Oui, on va y arriver.
Oui.
Bye, merci encore.